With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ça me questionne plus généralement sur ce qu'on devrait mettre en place tous collectivement, et c'est pour ça que ça nous concerne tous. Qu'on ait des problèmes de violence ou pas, qu'on ait l'impression d'être concerné ou pas, qu'on ait des amis pris d'un côté ou de l'autre de ce problème ou pas, parce que c'est une société tout entière qu'il faut changer. Pour pas recréer demain des petits garçons qui vont devenir des hommes violents, des petites filles qui vont devenir des victimes. Et ça commence à l'école, mais pas que. Ça veut dire sortir aussi de ce modèle viriliste extrêmement problématique. Ça veut dire mettre en place dès le plus jeune âge les conditions de l'égalité. Donc ça, c'est vertigineux parce que ça implique des changements à peu près à tous les étages.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. Deux mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliqué, c'est quoi pour toi être un homme? Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
On est donc avec Mathieu Palin. Salut Mathieu.
Salut.
Comment ça va?
Bah ça va bien.
Merci de venir au micro d'Histoire de mec. Mathieu, t'es l'auteur de deux documents, on va dire, sur les hommes et sur la masculinité. D'ailleurs, tes bouquins aussi parlent de masculinité finalement, tes bouquins d'avant qui sont sortis en 2019-2020. Mais alors, t'as sorti un podcast qui s'appelle Des hommes violents sur France Culture, justement début 2020.
Ouais. Fin 2019, novembre 2019, la mise en ligne du podcast. Ouais.
Où tu vas à la rencontre et tu vas dans des groupes d'hommes qui ont battu leurs femmes, qui ont été condamnés à ça, à aller se retrouver dans des groupes comme ça.
Ouais, c'était un groupe à Lyon de 12 hommes qui sortaient de prison pour la plupart. 12 hommes condamnés pour violence conjugale. Et l'idée était de se suivre pendant 5-6 mois, un vendredi sur deux, dans cette même salle qui ressemblait à une salle de classe. Avec cette idée qu'au fil des semaines, au fil des mois, cette parole entre pairs, P-A-I-R-S, permettrait peut-être une prise de conscience, aussi une remise en question peut-être d'un modèle de virilité qui posait problème dans leur couple, qui les avait conduits à commettre des violences sur leur conjointe. Et peut-être, justement, l'idée étant qu'ils ne récidivent pas, leur faire prendre conscience que ce problème devait être pris comme une priorité.
Et tout part, comme très souvent quand on parle de masculinité, d'une femme qui t'a écrit, c'est ça, si je me trompe pas?
Oui, alors il y a plusieurs points de départ à cette démarche. La première étant quand même le mouvement MeToo, qui prend sa naissance en 2017 avec l'affaire Weinstein, comme beaucoup de gens le savent, mais qui continue de grossir au fil des mois, qui s'impose comme étant un sujet incontournable, qui se retrouve sur le devant de la scène et qui y reste. Et donc forcément, moi, en tant que journaliste, je commence à me poser des questions, de savoir toutes ces femmes qui prennent la parole pour dire moi aussi, pour dire ce monde ne nous convient pas, il faut le changer, il faut prendre les armes presque pour le changer. Forcément, ça me questionne en tant que journaliste, parce que je réalise que j'ai 10 ans de quasiment de carte de presse et que j'ai jamais écrit une seule ligne sur le sujet, que je suis passé totalement à côté. Donc je commence à poser des questions quand même aux femmes autour de moi, je lis des bouquins, et à un moment, dans un livre de Virginie Despentes qui s'appelle « King Kong Theory », Elle parle du viol qu'elle a subi à l'âge de 17 ans, et puis elle parle du fait que, après en avoir parlé, beaucoup de femmes venaient la voir en lui racontant leur histoire, en racontant des histoires de viol à chaque fois, ce qui faisait qu'elle en était presque venue à l'idée que toutes ces femmes qui venaient, c'était pas possible, il y en avait forcément là-dedans qui mentaient, c'était tellement devenu banal de lui raconter cette histoire. Et puis elle se reprend tout de suite après en disant de toute façon, non, j'ai été bien obligé de me rendre à l'évidence, ça arrive tout le temps. Et cette phrase-là, ça arrive tout le temps, je me suis dit, bon là, peut-être elle exagère. Donc j'ai commencé à partir de cette phrase-là à poser des questions à mes sœurs, à ma conjointe, à ma mère. Et toutes avaient des histoires à raconter. Toutes mes amies avaient des histoires qui n'étaient pas forcément des histoires de viol, mais des histoires à minima d'agression sexuelle, de harcèlement... de consentement pas forcément bien clair, des histoires de zone grise, enfin beaucoup de choses. Et donc, en effet, cette femme qui arrive comme étant celle qui déclenche peut-être le podcast, ça arrive à ce moment-là aussi. Mmh. Au moment où ma mère m'a raconté une histoire assez trash quand même de tentative de viol qu'elle a subi quand elle avait 17 ans, et elle ne l'avait jamais raconté parce que... c'était les années 70, c'est que
puis la honte,
elle avait peur de le dire, elle avait peur que ça se retourne contre elle, qu'on la croit pas, que ses parents ne la croient pas, donc tout ça agit comme un peu comme on plonge un sachet de thé dans de l'eau bouillante, c'est-à-dire que ça infuse comme ça tranquillement. Et quand je reçois le mail de Cécile, donc qui est le fil rouge, qui va devenir le fil rouge de ce livre, mais qui apparaît déjà dans le podcast.
Oui.
Ça me permet de pas être dans un mouvement d'interrupteur où on appuie sur un bouton et clac, la lumière arrive. Mais je m'y intéresse aussi parce que depuis un an, je commence à réfléchir à ces questions. Et quand je reçois son mail, qui est celui d'une femme qui se décrit comme étant victime de violences conjugales, mais aussi d'un système judiciaire qui déconne, il y a un truc dans sa formulation qui m'alerte et qui me dit d'aller la voir. Et donc ça commence comme ça.
Ok. Et donc cette jeune femme, Cécile, se retrouve, tu le racontes ça dans le podcast et dans le livre, parce que le livre est une prolongation, donc tu as sorti ce bouquin, j'ai pas dit, mais qui s'appelle « Nos pères, nos frères, nos amis », qui est une prolongation finalement de ton enquête sur que t'as réalisé avec le podcast. Elle se retrouve dans ce groupe parce qu'en fait, la justice la condamne aussi à se retrouver dans un groupe où elle est la seule femme, si je me trompe pas. Et c'est terrible pour elle parce qu'elle se retrouve face à des mecs qui sont totalement dans le déni de leurs actes. Et elle, c'est la seule à finalement vivre le truc pleinement, quoi, en pleine émotion.
Bah, c'est la seule de ce qu'elle raconte.
Oui.
À se poser cette question de savoir est-ce que j'ai un problème de violence. Parce qu'en gros, la raison pour laquelle elle est là-dedans, c'est qu'elle a porté plainte contre son ex, qui l'a roué de coups pendant 45 minutes. Et au milieu de ce déluge de violence, elle a essayé de se défendre. Et elle lui a mis 2 gifles. Et elle l'a dit. Elle a dit, c'est vrai, dans ce déluge de violence dans lequel j'ai cru que j'allais mourir, où il m'a mis des coups dans les côtes, dans le visage, où il m'a jeté des objets, il m'a envoyé des coups de poing, j'ai essayé de me défendre et je lui ai mis 2 gifles. Et lui, il a contre-porté plainte. Donc il a trois mois plus tard, en apprenant qu'elle avait porté plainte parce qu'elle lui a dit, il a eu peur d'aller en prison. Il a porté plainte à son tour en disant elle s'est jetée sur moi, elle m'a giflé, et la justice a pas voulu trancher. Il n'y a pas eu d'enquête en fait réellement. La justice a dit un partout balle au centre, tous les deux vous allez être condamnés à régler votre propre problème de violence en allant suivre un groupe de responsabilisation à la violence. Ce fameux groupe de parole, en l'occurrence celui de Cécile était beaucoup plus court puisqu'il durait une journée je crois ou deux jours. Et donc la violence s'ajoutant à la violence, elle s'est retrouvée dans un groupe d'hommes qui étaient tous là pour avoir frappé leur femme et elle était la seule à se dire mais il faut que je trouve une logique à ça. Pourquoi la justice m'envoie là alors que je suis victime? Pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux gifles? Est-ce que ces deux gifles prouvent que je suis quelqu'un de violent? Est-ce que je me suis défendu? Et toutes ces questions-là me traduisaient à la fois un sentiment de désespoir, elle était perdue, mais en même temps une capacité de remise en question. Elle se posait quand même la question de savoir si, en effet, il aurait fallu qu'elle ne fasse rien et qu'elle se laisse tabasser sans répondre. Mmh. Et d'avoir face à elle ces mecs qui soit minimisaient beaucoup, soit remettaient la faute sur leur femme, soit étaient carrément dans le déni le plus complet en disant « moi j'ai rien à faire là », ça la dévastait. Parce qu'elle avait l'impression presque de se retrouver encore une fois face à un déni de justice avec des mecs coupables qui se sentent victimes et des filles victimes qui se sentent coupables.
Et c'est un peu le... Tu disais justement, Cécile, est un peu le fil rouge. J'ai un peu l'impression qu'en fait, le fil rouge de ton bouquin, c'est surtout beaucoup de déni de la part des hommes, sauf quelques-uns qui viennent juste assumer leurs actes et qui... Mais il n'y en a pas beaucoup. Et tu t'es retrouvé... Mmh. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Parce que je te demande à toi, en tant qu'auteur parce que t'as, et journaliste, parce que tu viens raconter ta propre histoire aussi à travers le podcast, à travers le livre. Tu viens raconter ta propre histoire, toi, de mec. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de te retrouver face à des mecs donc violents, objectivement violents, qui préféraient rester dans le déni plutôt que d'aller regarder en eux, quoi?
C'est assez étonnant au premier abord, parce qu'en fait, quand j'ai pour la première fois entendu parler de ces groupes de parole, je me suis forcément fait aussi une construction... mental qui ressemblait plus ou moins à Fight Club, quoi. Donc avec des mecs qui arrivent, ou les alcooliques anonymes, qui arrivent, qui s'assoient en cercle, et ce qui précède la prise de parole, c'est justement la reconnaissance d'avoir un problème. C'est dire, je suis alcoolique, je suis toxicomane, je suis violent. Et le fait de, dans ces groupes, très souvent, avant l'échange, il y a d'abord... un déni qui s'opère avec une prise de parole en général assez forte qui dit « je n'ai rien à faire là, je ne suis pas coupable, ma femme est une menteuse, la justice ne m'a pas reconnu, de toute manière maintenant avec MeToo on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, les femmes ont le pouvoir, elles l'utilisent pour se venger ». Tout ça rentrant dans une espèce de gros nuage qui s'appellerait celui du déni. C'est vrai que c'est étonnant parce que ça ne correspondait pas à ce que j'imaginais. Et en même temps, ce déni, il a plein d'explications. C'est à la fois une colonne vertébrale autour de laquelle s'agrège le discours qui vous permet de ne pas vous effondrer. Quand bien même vous êtes coupable, vous avez été condamné, la question n'est pas de savoir si vous l'êtes ou pas. Vous êtes coupable. Mais vous, dans votre discours, de dire que vous ne l'êtes pas, ça vous permet de continuer à vous regarder dans une glace. Et ça prouve aussi quelque chose, c'est que la violence conjugale, c'est une norme qui a évolué dans le temps. Et qui a évolué très rapidement ces dernières années. Il y a encore 40 ans, c'était quelque chose d'absolument banalisé et même d'autorisé. On entendait des phrases du type « bat ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle sait ».
Ouais.
Ou,
dans les années 60, il y avait une question d'éducation aussi. Comme aujourd'hui, tu sais, on frappe les enfants pour les éduquer. J'avais l'impression que dans les années 60, il y avait un peu ce truc de frappe ta femme pour l'éduquer.
Il y avait une violence physique qui était totalement acceptée. Les enfants se faisaient frapper à coups de martinet. À l'école, il y avait des punitions corporelles. L'État se considérait pas compétent pour régler les histoires de couple. Parce qu'on considérait que la violence conjugale, une femme qui se faisait tabasser par son mec, l'État n'avait pas à mettre son nez là-dedans. De la même manière que les histoires d'inceste, l'État n'avait pas à mettre son nez là-dedans non plus. La justice ne réglait très peu, très rarement des histoires d'inceste, quand bien même il était partout. Et ça, ça a évolué quand même assez rapidement, notamment ça avec ces 5-6 dernières années. Mais si ces gars n'étaient pas capables de dire « Oui, c'est vrai, je l'ai frappé ma femme, mais de toute manière, elle le méritait, et si demain, elle refait la même chose, je la frapperai deux fois plus fort », c'est bien parce qu'ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas en être fiers de ça. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui, quand ils ont été condamnés pour violence conjugale, arrivés en prison, ont préféré mentir et dire qu'ils étaient là pour braquage plutôt que pour avoir frappé leur femme, femme enceinte de 5 mois. Donc, ce déni... je pense qu'il faut aussi le regarder comme il est, c'est-à-dire pas uniquement en se disant oh là là, c'est qui ces fous furieux, bas de plafond, qui, alors même qu'ils ont été condamnés, continuent de dire qu'ils n'ont rien fait. Je pense que ça témoigne aussi d'une évolution, mine de rien, de la société, de voir qu'ils ne sont pas capables d'assumer leur violence en étant bien conscients qu'ils ne peuvent pas en être fiers de ça. Et ensuite, c'est aussi. C'est aussi assez classique finalement de ces histoires de violence conjugale d'avoir encore une fois cette inversion de la culpabilité, d'avoir des victimes qui se sentent coupables d'avoir été à l'origine, encore une fois, dans leur construction des ennuis qu'ont vécu leur conjoint ou ex-conjoint, c'est-à-dire la garde à vue, la justice, le fait qu'ils puissent plus voir leurs enfants, et à l'inverse des coupables qui eux se sentent les vraies victimes. Donc ça, c'est vrai que c'est étonnant quand on l'a sous les yeux, qu'on est assis dans la même pièce qu'eux. Et en même temps, assez rapidement, j'ai compris pourquoi. Et je vois que le déni est presque un préalable aussi à la prise de conscience. Chez certains, chez d'autres, ils arrivent avec une posture de déni extrêmement affirmée et ça ne bouge pas. Mais chez d'autres, il y en a certains qui ont commencé par dire « j'ai rien fait ». Et qui, petit à petit, sont parvenus à une réflexion, à un changement aussi sur leur base. Et j'ai entendu cette phrase de, notamment un mec qui s'appelle Kader, qui disait « En fait, c'était moi le problème. Mais entre le « j'ai rien fait », cette femme, c'était l'enfer. Et vraiment, j'aurais mieux fait de me couper un bras plutôt que de la rencontrer à... En fait, c'était moi le problème. Bah, y a eu toute une évolution qui a duré plusieurs semaines.
J'imagine.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et en fait, l'un des trucs aussi que tu pointes, je trouve, et notamment à travers l'histoire de Cécile, où il y a tout un moment dans le livre où tu racontes l'histoire de son père violent. Tu parles aussi beaucoup de la construction familiale et de la violence qui finit par... comme tu dis, se propager, se contaminer, qui est un virus en fait dans des systèmes familiaux. Et pour moi, l'une des raisons aussi pour lesquelles il y a du déni autour de ça, c'est que ça nécessiterait d'aller regarder un petit peu l'éducation que tu as reçue, de peut-être regarder la violence de tes propres parents en face. C'est pas forcément un truc qui est très simple à faire, quoi.
Bah, ce qui est sûr, c'est que la violence, c'est un comportement. C'est pas quelque chose avec lequel on est. On n'est pas violent, on n'a pas un gène en nous. Si on est violent à l'âge adulte, c'est bien parce qu'on a rencontré un jour la violence. Donc il y a deux manières de la rencontrer. Il y a en effet celle de la rencontrer parce qu'on y est exposé au quotidien. Soit par son père qui est violent, soit par le quartier dans lequel on vit, soit par son frère qui nous met des trempes, toute la journée, qui fait que on a une banalisation de la violence et on va finir par l'utiliser comme presque un outil comme ça normal pour régler des conflits, des problèmes de tous les jours, pour régler aussi des nos relations sociales. Et puis il y a une deuxième manière de rencontrer la violence, c'est tout simplement de vivre dans une société patriarcale qui encourage les petits garçons à utiliser la violence comme un outil d'affirmation. Et donc, là, on rentre sur la question de la domination. C'est-à-dire que pourquoi, dans nos sociétés, on encourage les petits garçons à dominer les petites filles? Et ça commence très tôt, ça commence dès la maternelle. Donc, et ensuite, le temps est court. C'est-à-dire que vous avez 4, 5 ans, 6 ans, vous apprenez déjà à vous positionner par rapport à l'autre en tant que petit garçon qui est censé avoir un avantage sur les petites filles. Et puis, 10 ans plus tard, vous êtes en couple avec ces mêmes petites filles. Et donc, vous avez évolué aussi en vous construisant vis-à-vis d'un modèle qui, pour le dire vite, est un modèle de virilité qui encourage les petits garçons à prendre le pouvoir, encourage les petits garçons à s'affirmer, les encourage aussi à répondre face à l'insulte, au mépris, au manque de respect par la violence, en se défendant, quitte à le faire par la force. Et ça, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de grandir dans un univers violent, familial, violent, pour être sensibilisé à ça, pour saisir les codes de la virilité. Et là, c'est pour ça aussi que dans ce livre, je dis « je », c'est que moi, j'ai grandi dans un groupe de mecs. Je suis né en 88, donc mon adolescence, c'était les années 90 et le début des années 2000. J'ai été totalement exposé à ça. Et je vois très bien ce que ça peut faire quand on est un garçon hétérosexuel qui essaye de se construire soi-même en se disant bon bah voilà le chemin normal pour devenir un homme c'est celui-là et qui va un peu cocher toutes les cases et qui sont des cases genre un garçon ça pleure pas, un garçon ça ne se confie pas sur ses émotions, ça cache ses sentiments, ça sait se défendre, ça sait se battre, ça doit avoir des muscles. Bon, tout ça, ça construit des êtres qui sont plutôt des handicapés des sentiments.
Émotionnels, oui.
Émotionnels. Et qui vont aussi se retrouver dans une incapacité à gérer les conflits conjugaux, à accepter que l'autre puisse avoir raison. Ces conflits-là, si on essaye de les régler en voulant rétablir ce qu'on pense être un rapport de domination normal, ce qui veut dire qu'en gros, l'homme serait le chef de famille et donc la femme, forcément, lui serait soumise, nécessairement, on va basculer dans la violence. Puisque la question ne va plus être de régler le conflit, mais de battre l'autre, de le dominer, de remporter le match, d'avoir le dernier mot. Donc pour moi, les deux principales raisons qui conduisent les mecs à être violents se situent là. Et parfois, et malheureusement, dans beaucoup de cas, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la rencontre avec la violence dans un cadre familial qui était extrêmement violent, avec un père violent, avec des images qui les traumatisent, de leur mère qui se fait battre, qui se fait traîner sur le carrelage dans la maison, de eux qui prennent des trempes. Et en plus, une société qui ne s'est jamais remise en question, d'un modèle patriarcal qui est hyper présent et qui perpétue justement cette histoire de domination masculine.
Alors, j'en profite pour le dire, parce que je sais après que je vais recevoir des mails, mais je sais, il faut aussi dire qu'il y a des femmes violentes. Il y en a certes statistiquement beaucoup moins, mais il y a des mères violentes, il y a des mères qui sont violentes, psychologiquement et physiquement avec leurs enfants, etc. Certes, il y en a peu, mais je fais toujours très attention à rétablir l'équilibre, parce que il y a des mecs qui nous écoutent ou des femmes qui nous écoutent qui ont été violentées par leur daronne, quoi.
Oui, mais en fait, la question est toujours la même. C'est...
Oui. D'où ça vient?
D'où ça vient?
D'où vient?
Bien sûr.
Ça vient du patriarcat.
Bien sûr, tout le monde peut être violent. Et d'ailleurs, c'est justement pour ça que le livre s'appelle Nos pères, nos frères, nos amis. C'est pour déconstruire cette image d'un violent qui serait forcément un gros baraqué, bas de plafond, alcoolique. Des femmes peuvent être violentes. La question, c'est à quel moment on rencontre la violence? En fait, si vous êtes une femme et que vous êtes fait tabasser toute votre enfance, la violence, vous allez la connaître. Ouais. Ce sera comme une amie, quelqu'un que vous connaissez bien, que vous pouvez solliciter, qui est pas très loin. Donc,
surtout si
c'est pas une histoire de. Enfin, bien sûr, il y a une histoire
de construction sociale et genrée.
Oui,
quoi.
Et puis genrée, bien entendu, puisque ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette société. Et son organisation montre que les petits garçons sont bien plus encouragés socialement à utiliser la violence.
Oui.
Une petite fille qui utilise la violence, on va trouver que ça fait mauvais genre. On va lui dire tiens-toi bien. Un petit garçon qui utilise la violence, on va se dire il est turbulent, mais c'est un garçon. Et puis il s'affirme. Et en même temps, il se laisse pas marcher sur les pieds. Une petite fille, ça va être beaucoup plus compliqué. On va la juger déjà. Donc statistiquement, bien entendu, c'est beaucoup plus les garçons. Mais il existe bien entendu des femmes violentes et la question n'est pas de savoir si elles ont tort ou pas de l'être, c'est de savoir à quel moment la violence est rentrée dans leur vie.
D'où ça vient. Et surtout, pour moi, le pire, c'est que quand t'es battu par tes parents, il y a ce truc aussi de, ok, donc en fait, c'est des gens qui sont censés m'aimer, qui me battent, donc en fait, c'est comme ça qu'on m'aime, c'est comme ça qu'il faut aimer, donc, ok, d'accord, donc forcément, tu vas battre tes enfants, quoi.
Oui, et puis c'est toute la recherche sur la mémoire traumatique, c'est la violence traumatise. Et donc, il y a, après l'état de sidération, des traces extrêmement profondes qui ont marqué votre cerveau, qui fait que vous allez potentiellement vous remettre dans cette situation d'exposition au danger, à la violence, et répéter ces scènes-là que vous avez vécues enfant. Donc, il y a bien entendu des explications à pourquoi un tel devient violent et pourquoi une telle est exposée à la violence.
Comment t'as la sensation, toi, d'avoir vécu... Qu'est-ce que t'as appris, toi, en tant que mec, pardon, par rapport à... Comme tu disais, tu cochais toutes les cases de la masculinité que t'as compris, quoi. Tu vois, t'es rentré dans le game. Qu'est-ce que t'as appris, toi, ces années-là d'enquête auprès d'hommes violents comme ça, en tant qu'homme?
Bah, j'ai appris beaucoup de choses, mais d'abord, ce constat que la violence est partout. Et donc, continuer d'enfermer les hommes violents dans une représentation monstrueuse d'un mec profondément animé par le désir de détruire la vie des autres ne correspond pas à la majeure partie de ces gars. Parce qu'en fait, si on regarde les chiffres, ils sont des centaines de milliers en France. Et ce sont pas tous des monstres. Ce sont aussi des gens extrêmement bien insérés dans la société qui me ressemblent. Et qui ressemblent à beaucoup d'entre nous, tout simplement parce qu'on les connaît et qu'on les aime, qu'ils font partie de notre famille. Et que il est tout à fait possible, puisque c'est le cas, d'être intelligent et drôle et extrêmement cultivé et violent. Et que tout ça n'est absolument pas incompatible. Donc la représentation qu'on a d'un homme violent qui serait forcément quelqu'un de moins intelligent, moins éduqué que nous, qui ne nous ressemblerait pas, est fausse, et je pense que il faut vraiment banaliser cette image de l'homme violent, parce que s'ils sont si nombreux et que le problème est si vaste et important et urgent, c'est bien parce que ça touche toutes les couches de la société et pas seulement les plus basses, pour le dire brutalement. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le message principal que j'ai envie de faire passer avec ce livre, qui était un constat aussi. Moi, je suis pas du tout un expert de la question. C'est un livre de journaliste qui a été sur le terrain et qui aussi se pose des questions, parce que je peux pas faire comme si j'étais pas un homme de 33 ans, aussi père d'une petite fille et qui a traversé les 15-20 dernières années comme un hétéro qui s'est pas trop posé de questions. Donc maintenant je m'en pose, et donc je dis je dans ce livre, mais encore une fois, je suis pas un expert, je regarde juste ce que j'ai sous les yeux, et ce que je vois, c'est que des hommes violents, il y en a énormément, et ils ressemblent pas tous à Michel Fourniret. La plupart d'entre eux nous ressemblent,
d'où le nos pères, nos frères, nos amis.
Exactement.
Partons du principe qu'en fait, qu'il y a des gars violents là, qui sont en train de nous écouter ou qui ont déjà pu faire preuve de violence. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Je ne sais pas.
T'as rencontré plein d'experts, hein, pour le coup. T'as rencontré plein de spécialistes et tout.
Il faut se faire aider. C'est la seule manière de sortir de là. En fait, on a été enfermés pendant... des siècles, j'ai envie de dire, dans justement ce handicap émotionnel qui fait que on garde tout pour soi, on parle pas, on demande pas d'aide, on On ne veut pas paraître pour faible. On ne veut pas avoir l'air d'être un PD ou d'être... forcément, ça n'aide pas. À, quand on est enfermé dans ces représentations, dans ces clichés, à demander de l'aide, à dire que ça ne va pas, à dire qu'on aimerait s'en sortir, mais on ne sait pas comment faire. Et il y a des associations qui prennent en charge ce problème. Il y a même une fédération d'associations qui s'appelle la FNACAV, avec un numéro. Vous composez ce numéro, il y a tout de suite un psy au téléphone qui vous prend en charge. C'est anonyme. Mm. Personne n'ira vous balancer nulle part. Ouais. Mais la question, c'est de savoir si vous êtes déjà passé à l'acte ou pas, si vous sentez que ça monte et que vous n'arrivez pas à gérer votre colère, si vous avez l'impression que vous êtes en train de ressembler de plus en plus à ce père que vous avez, dont vous étiez juré de ne jamais ressembler, que peut-être vous ne revoyez plus. Et toutes ces questions-là méritent d'être posées. Et il faut en discuter avec un professionnel. Il y a des gens qui sont spécialistes de la prise en charge d'auteurs de violence et qui ont des résultats. Ça prend du temps, c'est absolument pas une recette magique. Mais de la même manière que quand on est en dépression et qu'on commence une thérapie, on sait pas dans quoi on s'engage et on sait pas comment ça va se terminer, mais on sait qu'on en a besoin. Bah, c'est un peu la même chose. Et donc, moi, personnellement, je suis pas docteur, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je peux pas donner de conseils comme ça, mais je sais que des gens qualifiés, compétents, sont à l'œuvre, ils existent et il faut se diriger vers eux.
J'ai noté, hein, tu le notes dans le livre, le numéro, c'est le 08-019-019-11.
Ouais, c'est ça.
Vous pouvez passer un coup de fil quand vous sentez la colère monter et tout, vous allez avoir...
Ouais, et ça ne peut qu'être bénéfique de demander de l'aide.
Mais c'est dur, hein, pour les gars, d'y aller.
Bah, c'est dur.
C'est dur.
En même temps,
faire tomber cette carapace là, cette armure.
En même temps, si vous savez que vous avez ce problème, c'est que vous en souffrez. En fait, y a aussi un truc, c'est que bien sûr, ça existe des pervers, des manipulateurs, des psychopathes qui ne ressentent aucune empathie pour l'autre et qui jouissent de la souffrance de l'autre. Mais c'est pas du tout la majorité. La majorité des mecs sont quand même malheureux de faire le malheur autour d'eux, de créer de la souffrance, de pas réussir à s'en sortir, de pas réussir à vivre bien avec une femme, de vivre comme un couple normal. C'est une phrase que j'ai énormément entendue. Donc cette souffrance, si elle s'exprime et qu'elle les rend malheureux et qu'elle crée du malheur autour d'eux, puisque en fait ça crée des victimes, leurs enfants, leurs femmes. Leurs proches aussi, qui peuvent en souffrir de voir ce père, ce frère, cet ami s'enfermer dans une logique mortifère, dans une qui peut-être va être jugé, incarcéré, pris dans la spirale de la justice. Bon, bah, toutes ces questions-là, ça génère de la souffrance. Donc, si on le sait, si on sent qu'on a ce problème, il faut se prendre en charge.
T'es papa, tu le disais tout à l'heure, ouais. Tu le racontes dans le livre aussi, d'une petite fille.
Ouais, ben, c'est un peu un cliché de dire que forcément ça nous amène à se poser des questions, mais on voit sur ces histoires de violence conjugale que la violence se transmet quand même de génération en génération, un peu comme un virus. Encore une fois, en y étant exposé, non pas de manière génétique. Et donc ça m'interroge sur la manière avec laquelle on façonne nos enfants. Et je vois bien qu'en ayant une fille... la question, c'est quel monde on laisse à la génération future. Est-ce que juste ça va suffire de mettre au sein de ma petite échelle les choses en place pour qu'elle ne soit pas exposée à cette violence des hommes, pour qu'elle n'en souffre pas, pour qu'elle se construise comme une petite fille, une femme indépendante, forte. Non, ça suffira pas, bien entendu que non. Parce qu'on ne vit pas dans du coton. On vit dans une société, dans un bain d'influence. Et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est encore beaucoup trop patriarcale, beaucoup trop déséquilibré, pas du tout à l'égalité. Et c'est quand même l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme qui ouvre notre constitution, c'est que on est censé être égaux, libres, en droit. Et c'est pas le cas, on le sait bien. Donc ça me questionne beaucoup plus à long terme, à la fois sur bien entendu l'éducation que j'aimerais lui donner, mais plus généralement sur ce qu'on devrait mettre en place tous collectivement. Et c'est pour ça que ça nous concerne tous, qu'on ait des problèmes de violence ou pas, qu'on ait l'impression d'être concerné ou pas, qu'on ait des amis pris d'un côté ou de l'autre de ce problème ou pas, parce que c'est une société tout entière qu'il faut changer pour pas recréer demain des petits garçons qui vont devenir des hommes violents, des petites filles qui vont devenir des victimes. Et ça commence à l'école, mais pas que. Ça veut dire sortir aussi de ce modèle viriliste extrêmement problématique. Ça veut dire mettre en place dès le plus jeune âge les conditions de l'égalité. Donc ça, c'est vertigineux parce que ça implique des changements à peu près à tous les étages.
Quel âge ta fille aujourd'hui ?
Elle a pas encore 2 ans. Elle a un peu plus de 20 mois. Elle est à la crèche.
Et j'imagine que tu vois déjà à cet âge-là les différences qui peuvent se jouer.
Je vois pas encore justement. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'en fait avant une sociabilité scolaire, de rentrer dans les rails d'une organisation qui est extrêmement genrée, je vois bien quand je la dépose à la crèche que elle fait pas trop la différence. Un petit garçon, une petite fille, elle joue avec les deux de manière indistincte. Parce que y a pas encore cette idée de en fait il y a une séparation genrée qui est extrêmement forte dès le plus jeune âge. Les garçons avec les garçons, les filles avec les filles, avec une peur, un rejet de l'autre, jusqu'à ce que finalement l'adolescence les remette en couple, parce que en fait ils se retrouvent attirés l'un l'autre. Alors que c'est pas forcément le cas dans la plus petite enfance, il n'y a pas cette attirance sexuée, et donc, en tout cas pas de manière visible. Et donc là, pour l'instant, à cet âge-là, c'est-à-dire en grosso modo 2 ans à la crèche, on voit pas de différence, mais on sait qu'elles arrivent et que dès l'entrée à l'école, j'en ai beaucoup discuté avec des gens qui ont des enfants un peu plus âgés. À la maison, ils entendent des trucs du genre « Bon, moi, ce sport-là, je peux pas le faire parce que c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles. » Et « Oui, je cours pas vite, mais c'est normal, je suis une fille. » Et toutes ces petites phrases-là qui peuvent paraître anodines, et en fait, on les écoute, on les oublie, mais qui marquent déjà cette influence, ces influences qui vont faire qu'on va aussi vouloir se fondre dans la norme. Et si la norme, c'est porter du rose quand on est une fille, parce que les autres filles nous disent que c'est comme ça que ça doit être, et ben peut-être que on va aussi se plier à cette norme. Et de la même manière, si la norme, c'est être un mec, jouer au foot, et je dis ça en étant moi-même footballeur, donc on va se plier quand même aussi à cette norme. Quand bien même, peut-être, on n'aurait pas du tout envie de jouer au foot, mais plutôt de jouer à la poupée. Et donc, je vois bien que cette répartition des garçons, des filles, de la population française de moins de 10 ans, on va dire, elle est très rapidement genrée et elle nous enferme chacun dans des stéréotypes qui sont problématiques. Parce que dans pas longtemps, on va se mettre en couple. Et on va se retrouver face à un problème. C'est que on a déjà en nous les codes de ce qui peut nous amener vers la violence, c'est-à-dire la domination.
T'étais un petit garçon entouré de femmes, c'est ça ? T'avais 2 sœurs ?
J'avais 2 sœurs, une mère.
Une mère ?
À la maison, mais un père aussi.
Oui.
Moi, avec le recul, bien entendu, j'en étais pas conscient à l'époque. Mais je vois à quel point j'ai aussi, quand je disais que j'avais coché un certain nombre de cases, coché la case du grand frère, qui doit forcément être protecteur, mais qui du coup est dominateur. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'on tue. En plus, j'ai grandi en banlieue où cette figure-là est assez répandue, de celle de, d'un grand frère qui nécessairement doit être protecteur pour ses sœurs. Alors que personne ne me l'a jamais dit, c'est quelque chose que j'ai complètement intégré moi-même de manière inconsciente, mais que j'ai mis en place. Et du coup, à l'arrivée, ça veut dire dominer ses sœurs. Alors elles sont plus petites, mais malgré tout. Mmh. Prendre des décisions à leur place, les rabaisser. Et ça, oui, j'en ai bien conscience. Et je vois que, bon, bien sûr, c'est de ma faute, mais c'est aussi un modèle que j'ai embrassé en me disant que c'était ça mon rôle. Alors que non.
J'imagine que quand t'avais 15 ans, il y avait personne d'autre autour de toi, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de Mathieu Palin pour venir dire, tu peux faire autre chose, quoi, tu vois.
Alors c'est vrai que c'était pas du tout une question qui était débattue, mais je veux dire, ça posait pas problème, en fait. C'était comme ça. Alors, ça posait problème, bien entendu, puisque les femmes en souffraient, déjà. Oui. Mais
ça posait pas de question, en tout cas.
Il n'y avait pas de remise en question de ces modèles-là. Moi, quand j'allumais la télé, je regardais des séries, des films, c'était rempli justement de grands frères protecteurs qui allaient essayer de venger leur sœur qui avait vécu ci ou ça, quoi. Donc, j'avais pas l'impression de sortir du rang, justement.
T'avais la sensation que. Est-ce que t'as la sensation avec le recul qu'il y a des trucs que t'aurais aimé faire en tant que mec et où tu t'es dit, ah non, mais ça, je peux pas parce que c'est justement pas dans la voie en tant que mec, quoi.
Non, comme ça, j'ai rien qui me vient. Forcément, il y en a, hein, mais. Je pense en plus être pas forcément le genre de mec qui a le plus souffert, moi, de ce modèle. Parce que j'étais justement un gars qui a pas eu trop de problèmes à accepter un modèle masculin d'un mec qui fait du sport, qui va avoir un corps qui doit être développé à l'adolescence, puisque je faisais beaucoup de sport, donc j'ai pas forcément eu besoin j'ai pas souffert forcément de devoir coller à ce modèle-là, parce que j'y suis arrivé un peu naturellement. Mais je voyais bien dans mes classes, différentes classes dans lesquelles je suis passé au collège, au lycée, une souffrance chez certains mecs qui n'étaient pas justement dans ce moule-là et qui avaient du mal à y rentrer ou qui ne voulaient pas y rentrer et qui du coup étaient rejetés, qui étaient mis sur la touche. Alors je parle bien sûr de tous ceux qui se découvrent une orientation sexuelle différente de l'hétérosexualité et qui d'un coup sont eux pour le coup vraiment rejetés parce que... Parce que je vais pas moi parler au nom des homosexuels, mais je voyais bien que c'était compliqué de l'assumer face à la foule, face à cette normalité hétérosexuelle qui vous rejette comme étant quelque chose de différent, de pas normal. En tout cas, moi, dans les années 90, c'était vraiment c'était vraiment encore ça. Je sais que ça change beaucoup. Là, je fais des rencontres dans les collèges, et je vois des jeunes qui ont beaucoup plus de facilité à assumer ça vis-à-vis de leurs camarades de classe. Et à l'époque, c'était pas le cas. Mais la norme telle qu'elle est imposée par le groupe, par la majorité, est quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est difficile de s'y opposer et de s'affirmer en contre. Parce qu'on est rejeté, parce qu'on est critiqué, on est moqué, on est harcelé. Et j'ai eu la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai pas souffert de ça, puisque moi, j'étais de l'autre côté, justement, de ceux qui qu'on venait pas faire chier. Donc, je me garderais bien d'exprimer ce que c'est que d'être de ce côté-là de la barrière, si on peut parler comme ça, parce que j'ai pas vécu cette souffrance, mais je l'ai vue. Et je voyais bien qu'elle s'exprimait tout bas parce que de peur d'être une fois de plus vilipendée, critiquée, harcelée, quoi.
Et pour moi, l'un des trucs aujourd'hui clés que je vois, c'est que chez certains mecs qui sont justement du bon côté de la barrière, ils ont conscience en fait qu'ils sont du bon côté de la barrière et qu'il y a sans doute un truc à faire et à utiliser entre guillemets ce pouvoir qu'ils ont qui leur est tombé dessus ou qui... Parce qu'à un moment donné, ça tombe aussi dessus, quoi. Pour venir défendre les plus faibles. Et ça, c'est un truc, moi j'ai l'impression, en tout cas, je suis un peu plus vieux que toi, mais qui n'existait pas à mon époque, quoi. Les dominants, ils étaient dominants et en fait, il fallait surtout pas aller avec les parias, quoi.
Ouais, je sais pas... Je sais pas si ça change vraiment particulièrement à cet âge-là. En plus, ouais. c'est pas forcément l'âge où on a le plus de recul, le plus de maturité. On reste un enfant quand on est au collège, au lycée, et on est cruel. Et je vois que moi, le discours que je tiens aujourd'hui, je l'aurais bien entendu pas tenu à 15 ans quand j'étais moi-même au lycée. J'étais beaucoup plus con, beaucoup plus jeune, beaucoup plus égoïste aussi probablement. Enfin, je veux dire, c'est aussi un âge qui est cruel et qui est pas celui de l'intelligence. Je sais pas, j'ai pas assez de regard sur la jeunesse d'aujourd'hui pour savoir si les choses changent vraiment.
T'es toujours au centre hein, de tes différents bouquins, de tes projets, etc. J'ai l'impression que c'est parce qu'il y a un moment donné où il y a un truc qui te met toi en action, sur lequel tu viens te questionner, etc. C'est quoi tes projets à venir? C'est quoi les choses qui te meuvent?
J'ai écrit 3 livres. Le premier, j'étais pas du tout au centre parce que j'étais un narrateur omniscient, voilà, qui racontait une histoire.
C'est ça le gosse.
Les deux autres, ça le gosse. Ouais, les deux autres, en effet, je dis pour des raisons différentes, mais parce que j'ai l'impression d'être un personnage de l'histoire un peu de manière honnête vis-à-vis du lecteur, je me dois de lui dire qui parle. Et là, dans le prochain livre, j'aimerais redevenir ce personnage omniscient qui raconte une histoire qui n'est pas la mienne, qui me concerne pas directement, donc je vois pas de légitimité à apparaître. Donc voilà, je suis vraiment au début du projet, donc difficile pour moi d'en parler parce qu'il n'est pas encore vraiment défini, mais c'est un projet de fiction qui est encore une fois très ancré dans la réalité, puisque ça commence par un reportage qui est assez long, dans lequel je vais puiser pour basculer ensuite vers une histoire de fiction. Mais je ne pense pas utiliser le jeu cette fois.
Okay.
J'aimerais pas.
T'aimerais pas ?
Non, j'aimerais pas. J'aimerais réussir à raconter cette histoire sans avoir cette béquille du jeu. Parce que c'est une béquille de parler de soi.
T'as la sensation que c'est une béquille ?
Bah, bien sûr, c'en est une. C'est-à-dire que même quand t'as rien à dire, tu peux toujours parler de toi. Et donc, ça, c'est une béquille. Parce que ça te permet de aussi plonger en toi, de confier, un peu comme on confiait au théâtre, parler didascalie, on parle au public, ou en aparté, on a cette capacité aussi dans l'écriture de pouvoir se parler au lecteur en confiant des choses qui peuvent ressortir de l'intime ou de la réflexion ou de l'introspection. Et quand c'est bien fait, ça marche très bien. Carrère le fait très bien, par exemple. Mais j'aimerais bien aussi être capable d'écrire différemment et donc de me tenir à cette contrainte de prochain, je n'utiliserai pas ça.
C'est intéressant que tu le vois comme une béquille parce que pour moi, c'est plutôt une force, quoi, tu vois, et notamment dans ce récit-là parce que tu racontes ton propre cheminement et donc il y a une forme d'identification aussi qui se fait en tant que mec à en fait, je te suis.
Oui, mais une béquille peut être une force. C'est pas du tout, je le vois
c'est pas péjoratif.
C'est pas du tout péjoratif. C'est même au contraire un outil. Qu'on utilise dans le récit, dans la narration, pour que ça puisse aider à la fois au rythme du récit et en même temps s'adresser au lecteur de manière honnête et sincère en lui disant qu'il parle.
Mathieu, merci beaucoup.
Merci.
Je mettrai tous les liens pour aller découvrir ton travail. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? De la façon la plus simple possible sur les réseaux sociaux, c'est sur Insta, non? Où t'es le plus...
Je suis très peu
t'aimes
actif,
pas trop.
Mais oui, j'ai un compte Instagram, un compte Twitter, puis on peut m'écrire sur Messenger, comme beaucoup de gens.
Ok, merci beaucoup Mathieu, c'était chouette.
Merci.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.